Je termine la lecture de ce chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, saint Paul, sur la charité. Je pense que des journées comme celle que vous avez passée hier sont de bonnes occasions pour manifester la charité fraternelle qui existe entre vous. S'il y a une vertu qui rend la vie de communauté agréable et réconfortante, c'est bien la vertu de charité. Saint Paul nous dit en terminant les qualités qu'il énumère de cette vertu, « Omnia sufferta ». Omnia sufferta. Et d'abord peut-être « Conga odet veritati ». La charité ne se réjouit pas sur l'iniquité, mais se réjouit au contraire pour la vérité. Comme le désir de manifester l'amitié à quelqu'un est précisément de le mettre dans la vérité, de lui faire du bien. Saint Thomas exprime la définition de la charité, la définition de l'amitié, c'est de reconnaître ce qu'il y a de Dieu dans les autres et les porter à Dieu. Les deux manifestations de l'amitié, reconnaître ce qu'il y a de Dieu en eux. Donc tout ce qui est bien en eux, tout ce qui peut être bien en eux, mais qui vient de Dieu, le péché ne venant pas de Dieu. Donc ne pas aimer dans les autres ce qui les éloigne de Dieu, leur péché, et tout ce qu'il y a en eux qui ne vient pas de Dieu, qui les détourne de Dieu. Et manifester l'amitié envers les autres, c'est les porter à Dieu. Donc, encourager ce qui en eux vient de Dieu, et je dirais décourager ce qui ne vient pas de Dieu, et réprimander ce qui ne vient pas de Dieu. Or, précisément, la vérité est bien Dieu lui-même. Donc, s'il y a une chose que nous devons souhaiter, c'est que les gens soient dans la vérité, et se réjouir de voir ceux qui partage la vérité, cette vérité qui consiste avant tout dans la révélation que le bon Dieu nous a faite, donc l'adhésion à la révélation de Dieu, l'adhésion de notre intelligence par la foi à tout ce que le bon Dieu nous a révélé et par le fait même à tout ce que l'Église nous enseigne, au magistère de l'Église, qui est concrétisé, si on peut le dire, dans le catéchisme du Concile de Trente et tous les catéchismes qui ont suivi. Car ces catéchismes résument la révélation qui nous est donnée non seulement par la Sainte Écriture, car c'est une certaine déviation que de croire que toute la vérité nous est donnée par la Sainte Écriture. La vérité nous est donnée non seulement par la Sainte Écriture, mais aussi par la tradition. La tradition, qui nous vient d'ailleurs des apôtres, si la révélation est terminée avec le dernier des apôtres, ça ne veut pas dire que ce soit la révélation qui se trouve uniquement dans l'Évangile. Les apôtres ont enseigné même des choses qu'ils n'ont pas nécessairement écrites. Donc il y avait déjà une tradition jusqu'à la mort du dernier des apôtres. Et cette tradition, cet ensemble qui est formé par la tradition et la Sainte Écriture, tout cela avec le magistère de l'Église qui a donc défini, exprimé d'une manière authentique ce qui était contenu dans la révélation, justement l'interprétation de l'Écriture et ce qui est contenu dans la tradition, a fini par donner ce livre merveilleux qui est le catéchisme. Catéchisme dans lequel se trouve résumé exprimer la vérité, et la vérité que le bon Dieu nous enseigne. C'est quand, dans la mesure où on s'éloigne de cet enseignement, l'enseignement du catéchisme, à cette mesure-là aussi, on s'éloigne de Dieu. Omnia sufferta. La charité supporte tout. Supporte tout. Bien sûr qu'il faut toujours interpréter les choses telles que l'Église peut nous les enseigner. Si la charité supporte toute chose, elle supporte toute chose pour elle-même, comme sacrifice. Elle supporte toutes les outrages, les humiliations, les contradictions. Elle les supporte en union avec notre Seigneur et en union avec la croix de notre Seigneur. Dans ce sens-là, comme notre Seigneur a tout souffert jusqu'à la mort pour donner son âme pour ceux qu'il aime, il n'y a pas de plus grand témoignage d'amour de donner sa vie pour ceux que l'on aime, a dit notre Seigneur. Et je pense que c'est dans ce sens que saint Paul dit que la charité souffre tout jusqu'à donner sa vie, s'il le faut, pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu. Omnia credit. Omnia credit, je pense que ce que veut dire saint Paul lorsqu'il dit cela, c'est que le premier mouvement de la charité est de croire à ce qu'on dit, ce que disent les autres, et de croire. Avant, un petit peu, ça rejoint un peu ce que je vous disais, je pense, du jugement téméraire. Le premier mouvement, c'est de penser que ce que peuvent dire les autres est exact et véritable et qu'ils ne nous trompent pas. Mais ça ne veut pas dire que on va jusqu'à croire des choses qui sont contraires à la foi, puisque précisément, une ligne avant, il vient de dire que on se réjouit pour la vérité, avec la vérité. Donc, on ne veut pas tout croire, même ce qui serait faux, bien sûr. Mais c'est la disposition, vous voyez, disposition de l'âme. C'est cela que je crois que veut décrire saint Paul, la disposition intérieure, disposition de croire volontiers. Je veux pas dire de crédulité dans le mauvais sens du mot. Cette crédulité des âmes simples qui à la fois s'attachent volontiers à ce que l'on dit, à ce que les prêtres peuvent leur enseigner et qui en même temps tombent également parfois alors dans une crédulité excessive pour tout ce qui leur est annoncé de droite, de gauche, par des messages, par des visions, que sais-je. Alors là, on tombe dans une véritable fausse crédulité, pas crédulité excessive, qui n'est plus. Là, il faut être évidemment très 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 prudent. Omnia sperat. Malgré toutes les difficultés, tous les obstacles, toutes les contradictions, la charité espère toujours. Pourquoi ? Parce que la vraie charité met son espoir en Dieu, met son espoir en celui en qui se trouve la source de tous les biens. Et par conséquent, d'une certaine manière, elle dit qu'elle ne peut pas être, charité ne peut pas être confondue. In te speravi non confundar in eternum, nous chantons dans le Te Deum. En vous j'y espérais, je ne serai jamais confondu, je ne serai jamais trompé. Eh bien, c'est ça aussi, omnia sperat. J'espère, voulant le bien, voulant la vérité, voulant le bien des autres et le bien de Dieu, et on peut dire, enfin, la gloire de Dieu, la charité espère, et elle a raison d'espérer, parce qu'elle est sûre, elle est certaine que son espérance sera accomplie, sinon immédiatement, au moins dans un temps futur, mais que ça viendra. Omnia sustinet, je crois que c'est dans le sens d'un certain optimisme, si on peut dire, un optimisme. Omnia sustinet, elle encourage tout, la charité encourage tout. Tout ce qui est bien, évidemment, toujours, tout ce qui est conforme à la vérité, au bien, Charité, son premier mouvement aussi, le premier mouvement, c'est d'encourager. Si on voit quelqu'un qui a de bons sentiments, quelqu'un qui a un désir de bien faire, son premier mouvement, c'est d'encourager. Quitte après, si on s'aperçoit que ce mouvement n'est pas toujours très bien orienté, essayer de l'orienter convenablement. Mais le premier mouvement est de, non pas de décourager, mais de, au contraire, d'encourager. On pourrait dire la charité est toujours optimiste, et non pas pessimiste, toujours pour la même raison, parce que la charité se fie en Dieu. C'est Dieu qui est sa force, c'est Dieu qui est son appui. Et alors tout ce qu'elle trouve de bien, la charité l'encourage. Tout ce qu'elle trouve de bon, tout ce qu'elle trouve de conforme à la volonté de Dieu, à la bonté. Voilà, et toutes ces dispositions de la charité qui sont merveilleuses, qui sont excellentes. Et encore une fois, qui facilite énormément la vie de communauté et la vie en société. Mais il ne faut pas oublier que cette charité ne s'acquiert plus désormais sans sacrifice. Si on prêchait, par exemple, une retraite entièrement sur l'amour, la charité, sans donner, je dirais, l'aspect de sacrifice qui est nécessaire pour l'accomplissement de la charité, ce serait incomplet, ce serait inexact. Bon, on peut prêcher une retraite uniquement sur la charité, sur l'amour. Mais il faudrait compléter cette vision de la charité par la voie. Si on veut donner la voie qui mène à la charité, on ne peut plus, depuis le péché originel, depuis que l'homme est pécheur et que le péché a été détruit, enfin au moins en puissance, par la croix, on ne peut plus espérer retourner à la charité sans passer par le sacrifice, sans passer par la pénitence. De même que ce serait une erreur aussi, une erreur, c'est pas une erreur de prêcher la charité, mais n'insister que sur la charité sans donner l'aspect de la pénitence, ce serait incomplet, au moins incomplet, ce ne serait pas une erreur. De même que ne prêcher que sur la pénitence sans montrer que la pénitence n'est pas recherchée pour elle-même. On ne recherche pas la pénitence pour elle-même. La pénitence est un moyen, n'est pas un but, tandis que la charité est un but. Mais c'est donc tout autre chose. Mais la charité, encore une fois, ne peut plus s'acquérir sans ce moyen, sans le moyen de la croix, sans le moyen de la pénitence. Pourquoi ? Parce que pour que nous devenions charité, pour que nous transformions en charité, qui est la vie de Dieu, qui est la vie divine, Dieu est charité, pour que nous nous transformions dans cette charité qui est divine et qui nous est donnée par la grâce du bon Dieu, eh bien, nous devons nécessairement éloigner les obstacles qui sont en nous. Il y a des obstacles en nous qui existent, qui subsistent et que nous avons beau faire, beau dire, ils existent, ils sont là. Ils sont là depuis notre enfance, ils sont là depuis le péché originel. Donc il faut écarter ces obstacles, et l'écartement de ces obstacles produit en nous une pénitence, produit en nous un sacrifice. C'est comme un abcès qu'il faut ouvrir, il faut dégager pour que la santé revienne, pour que la guérison revienne. Et il n'est pas possible autrement, ne pouvons pas, sans souffrance, sans pénitence, sans mortification, nous est impossible de retourner à la charité. C'est la voie par laquelle notre Seigneur a voulu que nous retrouvions la charité. Et ceci est une très grande importance, parce que, évidemment, la pénitence n'attire pas. Si la charité attire par elle-même, la croix, la pénitence, la souffrance, la mortification, ce sont des thèmes qui ne sont pas agréables à entendre. Bien que une âme vraiment qui désire la charité, qui désire s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ, ait le désir de la souffrance aussi avec notre Seigneur, pense que les âmes saintes ont toutes eu presque un amour de la souffrance, un amour de la pénitence, un amour de la croix, parce que notre Seigneur a souffert, ne serait-ce que pour cette raison-là. Je pense que ça a dû être certainement ce qui a motivé les douleurs de la très sainte Vierge Marie, qui, elle, n'avait pas de péché, pourtant, qui était donc toute remplie du Saint-Esprit. Elle était pleine du Saint-Esprit, donc pleine de la charité. Alors, remplie de charité, malgré tout, la très sainte Vierge a voulu souffrir, par connaturalité, si on peut dire, avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour ressembler davantage à notre Seigneur, à son Fils, à son divin Fils. Alors, elle a accepté, et elle a même désiré, certainement, la souffrance et s'unir à lui. Alors, toutes les âmes saintes ont eu ce désir. Il est certain que ça n'est pas pour autant agréable en soi, ça n'est pas en soi qu'ils ont désiré la pénitence, mais c'est pour ressembler à notre Seigneur et pour arriver à laisser la place, laisser en nous la place à la charité, c'est cela. Et ceci, ce mouvement, je dirais, ce mouvement est en nous, est absolument nécessaire. C'est l'histoire de toute notre vie, de toute notre vie spirituelle. Ça ne vaut pas nous faire d'illusions. Et au début du carême, ici, je pense qu'il est excellent pour chacun d'entre nous de se demander, avant le carême, donc le carême va commencer dans quelques jours, il faut nous demander pendant ces jours, et particulièrement pendant l'adoration des 40 heures que vous allez avoir comme chaque année, il faut demander vraiment où en est notre justification, où en sommes-nous, essayer de faire le point de notre vie spirituelle, dans la mesure du possible. Tout cela est relatif, vous comprenez bien que c'est relatif. C'est Dieu qui peut faire le point exact de notre vie spirituelle, de notre vie surnaturelle, où en sommes-nous, de notre justification, c'est-à-dire de ce passage de notre état de pécheur, de ce passage de notre état de l'impiété, si on peut dire, à la piété, de l'injustice à la justice, de la malice à la sainteté. Où en sommes-nous? Est-ce que vraiment nous faisons des efforts? Est-ce que vraiment nous recherchons toujours à gravir les degrés de cette transformation qui s'appelle la justification? Justification. Justum fieri. Devenir juste. Le juste, c'est l'homme parfait, c'est l'homme saint, Joseph erat vir justus, et saint Pierre aussi dit à notre Seigneur, aux Juifs, vous avez tué le juste, vous avez le juste. Pourquoi? Parce que le juste, c'est celui qui rend à chacun ce qui lui est dû. C'est la définition de la justice. Quique suum, à chacun ce qui lui est dû. Donc à Dieu ce qui lui est dû, au prochain ce qui lui est dû, je veux dire à nous-mêmes, à notre propre âme, ce qui lui est dû aussi, pour la sauver, tout ce qui lui est dû pour la sauver. Alors, rendons-nous vraiment tout ce qui est à Dieu, ce que nous devons à Dieu, rendons-nous tous nos devoirs à Dieu, tous nos devoirs à notre prochain, tous nos devoirs à nous-mêmes, pour sauver nos âmes. Voilà ce que nous devons nous demander. Or, il est bien certain que nous avons tous des imperfections, nous avons tous des défauts, des fautes, et dans la mesure où nous ferons des efforts pour enlever les obstacles, écarter les obstacles en nous à la justice, à la charité, à la perfection, bien la grâce du bon Dieu pourra agir davantage. Car c'est pas nous qui sommes véritablement la cause de la grâce, n'est-ce pas? Nous pouvons être cause sur les dispositions à la grâce, oui, par la grâce de Dieu encore, mais nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de nous donner un degré de vie surnaturelle en plus, par nous-mêmes, simplement par nous-mêmes. Il faut que ça vienne aussi, il faut que ça vienne de Dieu. Seul le bon Dieu est cause véritablement de la vie surnaturelle. Mais le bon Dieu voit nos efforts, voit nos dispositions, et par le fait même, voit notre prière, notre demande, notre désir, notre vie de désir, et alors nous accorde ces grâces dont nous avons besoin, particulièrement par les deux sacrements de pénitence et de l'Eucharistie, qui sont les deux moyens pour nous d'avancer dans la perfection. Et vous voyez précisément pourquoi notre Seigneur a institué ces deux sacrements qui doivent être notre nourriture. La nourriture, à l'occasion de revue, sur notre chemin, nous avons principalement ces deux sacrements que nous pouvons répéter fréquemment et donc qui nous entretiennent dans la vie spirituelle et augmentent notre vie spirituelle. Il n'y en a pas qu'un seul qui serait l'Eucharistie, l'union à notre Seigneur, mais il y a aussi la pénitence qui écarte les obstacles et qui donne la grâce en même temps aussi, car ce serait aussi une erreur de croire que le sacrement de pénitence n'est nécessaire que lorsqu'on a des péchés graves, par exemple. C'est ce qu'on dit facilement actuellement. N'est-ce pas? Vous vous confesserez, on donne une absolution collective, vous vous confesserez si vous avez des péchés graves, vous irez trouver le confesseur dans les 6 mois ou dans l'année qui vient. Comme si le sacrement de pénitence n'était nécessaire que lorsqu'on avait des péchés graves. Alors que le sacrement de pénitence, précisément, a pour but particulier de nous donner la grâce d'éviter le péché et de nous donner des dispositions qui nous rendent forts, qui nous donnent une grâce de force contre les scandales, contre les tentations, contre tout ce qui peut nous éloigner du bon Dieu. Le sacrement de pénitence a une vertu spéciale pour ça. Et il n'y a aucun doute que ceux qui se confessent régulièrement et qui se confessent avec ferveur ont une facilité particulière de repousser les tentations, de repousser les obstacles à la vie intérieure, à la vie surnaturelle. Ces deux sentiments se retrouvent, n'est-ce pas, tout le temps dans toute la spiritualité, en particulier la spiritualité de Saint Paul, n'est-ce pas, dans les Romains, au chapitre 6e, par exemple, verset 18e au 22e, Saint Paul dit « Vous êtes délivrés du péché et vous êtes devenus les serviteurs de la sainteté. Liberati a peccato, servi factiestis justitiae. »